carrefour des arts. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Christa Leuc.
Dictionnaire amoureux du Louvre, paru chez Plon par Pierre Rosenberg de l'Académie française, qui nous fait l'amitié de venir une nouvelle fois dans nos studios à Canal Académie. Monsieur Pierre Rosenberg, bonjour.
Bonjour, ça me fait plaisir d'être ici.
Ben nous aussi. Rappelons à nos auditeurs que vous avez été président-directeur du Louvre entre 1994 et 2001 et que vous comptez parmi les plus éminents spécialistes mondiaux de peinture et de dessin, et particulièrement pour les XVIIe et XVIIIe siècles. C'est dire l'autorité de votre compétence pour nous offrir ce merveilleux dictionnaire amoureux du Louvre. Et je précise à nos auditeurs que vous n'êtes pas ici en tant que directeur d'une équipe de rédacteurs, mais le rédacteur, l'auteur de cet ouvrage, c'est bel et bien vous, Pierre Rosenberg. Et nous nous réjouissons à l'idée que c'est un amoureux qui nous en parle. Alors, pour nous retrouver dans cette forêt d'érudition, et puisqu'il s'agit d'un dictionnaire, nous allons évidemment suivre des mots. Et des mots ou des entrées qui nous serviront de repère, tout un peu comme le petit poussé qui suivait ses cailloux. Et on va rentrer dans cette forêt, à la page 440, par l'histoire du Louvre. Le Louvre est aujourd'hui un musée, un lieu, son histoire a une chronologie. Donc il y a le Louvre sous la Révolution française, avec ce personnage central dont nous allons peut-être parler plus tard, Dominique Vivant-Denon, et le Louvre sous l'occupation. Bref, cette histoire du Louvre, que pouvez-vous nous en dire?
Écoutez, c'est un dictionnaire, c'est-à-dire que j'ai essayé de traiter le Louvre sous tous les angles possibles, c'est-à-dire historique, anecdotique. Il y a beaucoup de petites anecdotes, évidemment en privilégiant les collections, mais aussi en parlant du palais. J'ai voulu que tout le monde s'y retrouve un petit peu. Et bien sûr, je ne pouvais pas le faire parce que mes compétences sont limitées. Donc j'ai surtout parlé des choses, et là c'est le côté amoureux qui prend un peu le dessus, que je connaissais mieux que les autres. Donc il y a une sorte d'équilibre difficile à trouver entre ce que j'aimais, ce que je voulais faire partager, ce que je connaissais peut-être mieux que d'autres, les domaines dans lesquels je pouvais même apporter des informations nouvelles, parce qu'il y a des choses qui n'ont jamais été écrites ou dites auparavant, et puis d'autre part, en effet, mes coups de cœur, si vous voulez. Donc l'histoire du Louvre, c'est une longue histoire. C'est l'histoire d'abord d'un palais qui a été celui des rois de France, avant que ce ne soit Versailles, et puis c'est devenu, un peu avant la Révolution, ou plus précisément pendant la Révolution, un musée, et un musée qui a été pendant longtemps et qui reste encore, je crois, exemplaire. Et un musée et un palais, c'est pas la même chose. Donc la jonction et la transformation du palais en un musée est quelque chose qui est évidemment très fascinante, et de voir comment l'idée s'est faite justement de transformer ce qui était un palais qui en plus joignait le Louvre aux Tuileries par l'intermédiaire de la Grande Galerie, cette Tuilerie qui n'existe plus. Comment tout ça s'est fait, j'ai voulu un peu donner en vérité ce que j'ai voulu faire, j'aurais dû le dire plus tôt, c'est donner envie aux gens d'aller voir le Louvre et de le voir un peu.
Je crois que vous avez réussi.
J'espère, parce qu'on croit le connaître et en fait on ne le connaît pas. Moi le premier, je ne le connais pas. Et j'ai voulu justement attirer l'attention sur des choses que les gens ne regardaient pas forcément, les obliger à lever les yeux ou de s'arrêter devant une œuvre plus longuement pour tenter d'en décrypter la signification. Donc j'ai voulu susciter la curiosité des lecteurs. Voilà. En montrant que personne ne peut prétendre connaître le Louvre parfaitement, que ce soit sous l'angle historique, que ce soit sous l'angle de ses collections, l'extérieur, l'intérieur, enfin voilà.
Oui, absolument. C'est tellement immense. C'est un véritable labyrinthe. Mais grâce à votre dictionnaire, on réussit à s'y retrouver un peu mieux. Et le Louvre sous l'occupation, comment ça s'est passé?
Justement, ça c'est par exemple une notice assez nouvelle. J'ai essayé justement de faire une notice de ce qu'était ce Louvre entre 41 et 45, entre 40 et 44 pour être très précis. Et c'est pas facile parce que sur ce chapitre, les archives du Louvre sont très maigres. Il faut d'abord savoir qu'il était vide le Louvre pendant la guerre, que les collections avaient été évacuées, que tous les conservateurs avaient suivi leurs collections dans ces plans d'évacuation et que tous ces conservateurs qui avaient suivi cette évacuation dans des châteaux en général abrités loin des centres de manière à ce que les bombes ne les touchent pas, tous ces conservateurs au fond, ils n'étaient pas à Paris. Donc pour savoir qu'est-ce qui se passait au Louvre pendant la guerre, il a fallu que j'aille un peu peu plus profond pour découvrir toutes sortes de choses tristes sur le fait qu'en effet, on le visitait quand même, qu'on y voyait quelques plâtres, que les collections qui y étaient restées étaient très peu nombreuses. Mais par exemple, était-il chauffé? Combien coûtait son entrée? Les officiers allemands avaient-ils la gratuité? On sait qu'à partir d'une certaine date, les juifs en ont été interdits. Donc voilà, toutes ces choses-là, j'ai essayé de les rassembler. Et là, par exemple, ce chapitre sur le Louvre pendant la guerre, je ne prétends pas avoir tout trouvé, loin s'en faut, mais je crois que c'est un chapitre qui devrait donner envie à quelqu'un de consacrer un petit livre à la question.
Bah oui, parce que quand on imagine comment pouvait se faire cette évacuation...
L'évacuation était une chose extraordinaire. Bah oui. Alors, j'aurais dû m'exprimer plus clairement. Sur l'évacuation et sur les dépôts du Louvre et les risques qu'ont les conservateurs qui gardaient ces dépôts, certains ont failli être fusillés, certains d'autres étaient dans la résistance, donc faisaient courir des risques à la fois à eux-mêmes et à leur collection. On sait beaucoup de choses. Ça, c'est vrai. Là, on est très renseigné. Tous ces personnages ont écrit leurs souvenirs et qui sont parfois un peu contradictoires entre eux, mais très passionnants. Et ça a été un tour de force extraordinaire, cette double évacuation, car il y a eu une première évacuation au moment de Munich. Et ensuite, les œuvres sont revenues. Puis, naturellement, il y a eu, au moment de la déclaration de guerre, une seconde évacuation. Mmh. Mais à Munich, on avait, si j'ose dire, déjà fait
déjà
une
évacuation. Déjà, on sentait que
ça n'allait pas
le danger allait venir.
Oui, c'est-à-dire, personne n'a cru qu'on s'en sortirait sans une guerre imminente. Mmh. Bon, et puis après, je veux dire, donc, il y a cet aspect-là qu'on connaît bien. Et puis, il y a l'autre aspect, ce qu'on ne connaît pas du tout, de ce qu'était ce lieu pendant cette période très noire de notre histoire.
Oui. Et puis, l'entrée du Louvre s'effectue par la fameuse pyramide, cette pyramide de l'architecte sino-américain Pei. Et je dis fameuse parce qu'il y a eu une bataille de la pyramide qui fait maintenant partie de l'histoire du Louvre, on peut
dire. Tout à fait. Oui. Le mot bataille de la pyramide, naturellement, est très amusant puisqu'il fait allusion aux pyramides de Vivant-Denon, justement, et de Bonaparte. La bataille a été très, très intéressante. Et malheureusement, les médias actuels, ou ceux qui parlent du Louvre sans le connaître, il y en a beaucoup, ne résument pas la situation, ne racontent pas l'histoire comme il faudrait. On a cru que c'était une bataille droite-gauche. Et ce n'est pas du tout le cas. Chirac, le président Chirac, que pourtant je traite parfois sévèrement dans mon livre, et qui d'ailleurs m'a traité sévèrement également, était très favorable à la pyramide très tôt. Et à l'inverse, je ne crois pas révéler un secret, en disant que dans le cabinet de Jacques Lang, qui à l'époque était ministre de la Culture, il y avait des opposants farouches. La bataille de la pyramide n'a pas été une bataille politique gauche-droite, elle a été une bataille d'idées entre des gens qui croyaient que cette pyramide était le monument qu'il fallait dans la cour du Louvre, et ceux qui pensaient que l'architecte n'était pas le bon pour mener à bien ce projet. Et là, on commence maintenant à mieux comprendre les enjeux et à se rendre compte que Pei, en fait, architecte choisi par la volonté du président et non pas par concours, contrairement à ce qui s'est fait toujours par la suite, cette fois-ci le président, ce n'était pas Chirac, mais Mitterrand, bien sûr, que Pei a eu là à mener une bataille très rude, mais qui n'était pas contre l'opposition de gauche, mais qui était souvent contre le ministère qui lui avait commandé l'œuvre.
Oui. Mais en tout cas, on peut parler d'une réussite.
Une superbe réussite, mais il y a encore aujourd'hui des résistances, pas tellement sur la pyramide elle-même, mais sur les petits pyramidons. Tout le monde n'est pas convaincu que ces petits pyramidons étaient nécessaires. Ils sont nécessaires parce qu'ils donnent de la lumière à l'espace sous la pyramide, qui est très beau, surtout le soir, mais esthétiquement, de l'extérieur. Et là, par exemple, Pei a gagné une bataille contre certains conservateurs toujours en vie aujourd'hui.
Oui. Comme il faut aller vite, malheureusement, parce qu'il y a énormément de matériel.
Ah, mais je répète que la seule chose que j'espère par cette émission, c'est faire venir quelques visiteurs en plus qui iront regarder telle œuvre ou au contraire s'interrogeront et espéreront trouver la réponse à cette question dans le livre.
Oui, mais nous l'espérons avec vous, bien sûr. Mais il y a une autre entrée qui est très intéressante, c'est les présidents-directeurs du Louvre. Vous rappelez la liste de tous ceux qui se sont succédés. Donc à la responsabilité de ce grand musée, vous y figurez bien sûr, puisque vous en avez assuré la charge pendant plusieurs années, comme on vient de le dire. Et peut-être pouvez-vous évoquer son premier responsable, Dominique Vivant-Denon, personnage central. Et peut-être aussi après parler de votre propre passage et expérience
si vous voulez,
à la tête.
Ça a beaucoup changé. On croit qu'en effet, le Louvre a toujours eu des directeurs, et ce n'est pas vrai. D'abord, en effet, Dominique Vivant-Denon, dont je dirai volontiers quelques mots tout à l'heure, a été le patron du Louvre, c'est sûr. Mais pendant très longtemps, le Louvre ne dépendait pas de son directeur. Il y en avait un qui n'avait aucun pouvoir, aucune autorité. Le Louvre dépendait du directeur des musées de France, de la direction des musées de France. Et ça fait que très peu de temps que le directeur du Louvre est patron à bord. Le président directeur du Louvre est patron à bord. mon prédécesseur a été le vrai premier président directeur du Louvre, et seulement pendant la seconde partie de sa carrière, je veux parler de Michel Laclotte, mon successeur naturellement aussi, mais je veux dire qu'au fond, le Louvre dépendait de la direction des musées de France jusqu'à une date toute récente, jusqu'à ce qu'il acquiert cette autonomie qui s'est développée, a pris plus d'importance maintenant, et le Louvre maintenant devient de plus en plus indépendant de ses décisions, mais ne l'a pas été pendant très longtemps. Donc on s'imagine toujours que le Louvre a eu un directeur, ça n'est pas vrai. Il a eu des directeurs sans pouvoir. Le Louvre n'était qu'une des institutions dirigées par la direction des musées de France. Le directeur des musées de France, DMF, avait son bureau au Louvre. Mmh. Et c'est le départ du Louvre, du directeur des musées de France, qui a marqué le début de l'autonomie du Louvre. Autonomie qui croit, comme je l'ai déjà dit, de jour en jour pour aboutir à ce que j'espère sera une indépendance. Alors Dominique Vivant-Non est un personnage évidemment extraordinaire et à qui le Louvre a consacré il y a quelques années une grande exposition.
Auquel vous avez consacré.
Oui, je me suis un peu occupé de cette exposition, il faut bien le dire, mais qui était évidemment un romancier avec ce livre que vous avez tous lu, qui est à l'origine d'un film, Les Amants. Ce livre s'appelle Point de lendemain, est un petit chef-d'œuvre. Il était un graveur un peu licencieux, pour ne pas dire un peu plus illustre. Il était diplomate, il a représenté les rois de France à Naples, au royaume des deux Siciles, et c'était le plus âgé des compagnons de Bonaparte dans la campagne d'Égypte. Il était le plus âgé des 185 savants qui ont accompagné Bonaparte en Égypte, cette expédition d'Égypte qui, à mon avis, est le plus beau moment de Bonaparte, ce moment où véritablement l'idée que les idées de la Révolution puissent améliorer le sort de l'humanité, puissent apporter à ceux qui n'avaient pas la civilisation, guider ces soldats d'Égypte et ces savants d'Égypte. Alors il l'a accompagné, c'est là qu'ils ont dû faire connaissance plus profondément. Et au retour d'Égypte, quelques années plus tard, lorsque l'idée de faire du Louvre un musée, décision prise le 10 août 1793 et mise en pratique le 15 novembre de la même année, a pris forme. Et la première chose que fait d'ailleurs Denon, c'est de débaptiser ce qu'on appelait le Muséum Central et de l'appeler Musée Napoléon. Il était un petit peu, il savait flatter ceux qui le faisaient. Et lui, Denon, était à la fois un homme du XVIIIe siècle, grand amateur de peinture, grand connaisseur de peinture, et aussi un homme avec des idées qu'il doit en partie, il faut bien le dire, à la Révolution française. Et sa grande idée, elle nous paraît si banale que personne aujourd'hui ne la remet en cause et ne se rend même compte que c'était lui qui l'a vraiment mené à bien au Louvre, c'était de présenter la peinture, et d'ailleurs l'archéologie romaine, grecque et romaine, chronologiquement, par école. Cette idée toute simple d'un développement, non pas d'un progrès, mais d'un développement de la peinture. Cette idée qui nous paraît si évidente, parce que tous les musées du monde aujourd'hui présentent chronologiquement leur collection, c'est lui vraiment qui l'a imposé à une grande échelle. Et il a fait du Louvre, que ce soit pour l'archéologie, et que ce soit pour la peinture, et avec les collections, il faut bien le dire, ramassées par la France révolutionnaire, puis par la France du Consulat et de l'Empire, et par Bonaparte et Napoléon, dans toute l'Europe, qui avait bien sûr un petit peu, il faut bien dire, saisi dans des conditions un peu brutales les œuvres. Cette idée de faire du Louvre le plus beau musée du monde, celui qui puisse raconter cette histoire de la peinture avec tous les chefs-d'œuvre de l'Europe, cette idée a plu tellement, a tellement enthousiasmé ceux qui visitaient le Louvre de cette période, qu'en 1814, à la première chute de Napoléon, au moment de l'exil à l'île d'Elbe, le congrès de Vienne, réuni à Vienne bien sûr, décide de ne pas toucher au Louvre. Parce qu'on estime que ce musée, même s'il est composé de pillages, en grande partie de pillages, pas uniquement quand même, ce musée est tellement utile à la connaissance de l'humanité, tellement beau par le rassemblement des œuvres, ces œuvres d'ailleurs qu'il sait protéger, conserver et restaurer mieux que l'on le faisait avant, ce musée est si parfait qu'on n'y touche pas. Et il a fallu que cet imbécile de Napoléon revienne de l'île d'Elbe et que les Français, non moins bêtes, se rallient à lui massivement à son retour de l'île d'Elbe pour que les Alliés, blessés par l'attitude des Français et voulant les humilier, c'est écrit noir sur blanc à l'époque et répandu dans la presse de l'époque, pour les humilier, ont décidé de détruire le musée Napoléon. Et on a rendu à ce moment-là l'essentiel des collections qui avaient été rassemblées par Denon, aussi bien en Italie qu'en Allemagne, etc.
Oui. Non, mais c'est vraiment un fascinant personnage. Et je crois
Les dames l'aimaient beaucoup. Il était très, très apprécié des dames. Et d'ailleurs, c'était réciproque. Il les aimait bien aussi.
Donc, il a vraiment...
Il était très laid en plus. On ne comprend pas pourquoi elle lui plaisait.
Mais il devait avoir beaucoup de charme.
Oui, oui, il devait avoir pas mal de charme.
Oui. Et je crois savoir que vous avez reçu, lors de votre réception à l'Académie française, l'épée de Dominique
Denon. On dit que c'est celle de Denon. On dit que c'est celle de Denon, ça n'est pas sûr. Dans la mesure où tous les membres de l'expédition d'Égypte, tous les savants, ont chacun eu droit à une épée, dessinée par Biennet d'ailleurs, et que la mienne, elle est peut-être dedans, mais elle peut aussi être d'un autre des membres. En tout cas, elle, quand je dis la mienne, j'ai un peu tort de le dire, puisque je l'ai donnée sous réserve des usufruits, j'espère que je la garderai le plus longtemps possible. Je l'ai donnée naturellement au Louvre, parce que c'est une très belle épée en soi. Je veux dire que c'est un très beau dessin, très pur, très simple. Elle a sa place, je crois, dans les collections du Louvre.
Et on peut la voir où ?
Chez moi, pour l'instant. Chez moi,
parce que vous.
Je la garde jusqu'à ma mort.
Voyez, curiosité tout de suite.
Non, vous avez raison.
J'aurais filé au Louvre.
Votre curiosité est justifiée par le fait que j'aurais dû dire que je l'avais donnée sous réserve d'usufruit. Mais c'est signé, donc je n'en suis plus propriétaire, si vous voulez, mais j'en ai gardé jusqu'à ma mort. Je répète, j'espère pas demain, j'en ai gardé l'usufruit.
Oui. D'ailleurs, je rappelle à nos auditeurs que nous avons déjà consacré une grande émission,
c'est vrai,
grâce à votre aimable et sympathique concours, à ce magnifique personnage
que vous pouvez d'ailleurs
Dominique
voir dans
Vivant de nom. Et il faut bien dire que son prénom c'est Dominique Vivant.
Exact.
Parce qu'on dit souvent Vivant de nom, pensant que c'est, voilà.
En tout cas, si vous voulez voir si vous voulez voir les traits de son visage dans les salles du Louvre, dans les salles du 19e du Louvre, vous pouvez voir son portrait par Prudhon. Et un portrait qui le montre plus 18e que Expédition d'Égypte, si j'ose dire, mais très très 18e. Je veux dire très petit marquis.
Ah bon, bien. Et pourriez-vous peut-être aussi nous éclairer sur les liens entre le Louvre et d'autres grands musées, comme par exemple le musée du Luxembourg ou le musée d'Orsay ou la National Gallery à Londres ?
Mais vous savez, c'est très curieux, je parlais tout à l'heure de Chirac. Chirac était convaincu que le Louvre devait être un musée universel, un musée qui montre un peu tout. Or, en fait, le Louvre est un musée très fragmentaire. Il y a très peu de choses au Louvre. Il n'y a pas les impressionnistes, il n'y a pas la peinture moderne, il n'y a pas la préhistoire, il n'y a pas les arts d'Asie. Tous ces musées font que c'est Paris qui est une ville universelle et encyclopédique, pas le Louvre. Et je crois qu'il est trop tard aujourd'hui pour faire du Louvre un musée encyclopédique. Aujourd'hui, le seul musée qui peut vaguement prétendre à être encyclopédique, je peux en parler, j'y étais avant-hier encore, c'est le Metropolitan. Et encore, le Metropolitan n'a pas de section, enfin ne peut pas rivaliser pour l'art contemporain avec le MoMA, avec le Musée d'art moderne de la ville de New York, qui lui a les grands chefs-d'œuvre de la peinture du XXe siècle. Donc il n'y a plus de possibilité aujourd'hui d'avoir un musée encyclopédique. Alors comment le Louvre se situe-t-il ? D'abord, ce sont 8 départements. Ce nombre de départements a cru. Il y en avait 2 à l'époque de Denon, c'est-à-dire d'une part les peintures et les dessins réunis, et d'autre part les antiquités grecques, étrusques et romaines. Et par exemple, les esclaves de Michel-Ange étaient considérés comme une antiquité grecque. Bon, petit à petit, se sont créés d'autres départements, l'Égypte, ce qu'on appelait les antiquités orientales, qui en fait ne concernent que le Moyen-Orient, c'est-à-dire Babylone, etc. Et puis après, les objets d'art, les sculptures, les dessins. Et puis, 8e département créé après mon départ en 2001, l'islam. Donc il y a 8 départements. Et quand vous parlez de comparaison, il faut par exemple comparer ces départements à des départements équivalents, soit à Paris, soit dans le monde. Alors pour ma part, je crois que le département qui, sans aucun doute, est le premier du monde, parce que ses collections ne peuvent être comparées en qualité et en quantité à aucune autre collection, ce sont les dessins. Je crois que dans le domaine des dessins, le Louvre occupe sans contestation la première place mondiale. Pour l'Égypte, c'est plus naturellement en dehors du Caire, si vous voulez, je crois aussi que le Louvre est en tête. Pour les peintures, c'est une question que se sont posées tous les conservateurs des peintures, ce que j'ai été moi-même pendant longtemps. Comment le Louvre se situe-t-il par rapport à la National Gallery de Londres, qui est la 3e place, elle est loin derrière. La première place, elle se joue vraiment entre ces deux musées. Le 3e n'entre pas dans la course, si j'ose dire. Donc entre la National Gallery de Londres et le Louvre. Alors, comment peut-on les comparer ? C'est sûr que la National Gallery de Londres a une plus belle collection dans le domaine des primitifs flamands et dans le domaine des primitifs italiens. Le Louvre est plus fort, je crois, pour la Renaissance italienne, surtout pour Venise. La National Gallery est plus forte que le Louvre pour les Hollandais. Le Louvre est plus fort que la National Gallery pour les Flamands. Donc, vous voyez, tout ça, c'est un peu... Alors, évidemment, il est normal que la peinture française soit mieux représentée au Louvre. Alors, il y a des particularités propres au Louvre. Premièrement, c'est un palais. La National Gallery a toujours été conçue comme un musée. Donc le Louvre a cette chance d'un décor palatial avec les plafonds de Romanelli, de Braque, etc. Et ça, c'est un premier point. Et ça fait quand même une grande différence. Ne serait-ce que parce que, à cause de cette fonction de palais, les vues sur la Seine ou sur la rue de Rivoli sont formidables, sont extraordinaires et distraient le visiteur au double sens du terme. Puis deuxièmement, le Louvre a une autre particularité qui le distingue de la National Gallery de Londres, ce sont les grands formats. Le Louvre, je ne sais pas pourquoi, a ses tableaux de très grand format. Alors, on pense tout de suite à Delacroix, on pense tout de suite à Serge Géricault, bien sûr, mais on oublie Véronèse, Rubens, toute une
Poussin.
Série de tableaux. Oui, Poussin aussi, il y a de très grands formats de Poussin, vous avez raison. Donc, si vous voulez, la National Gallery n'a pas ces grands formats, ce qui, à mon avis, est un petit atout du Louvre dans cette comparaison.
Alors, et les Lebrun.
Oui, les grands Lebrun, vous avez parfaitement raison. Dans les jours où je suis un peu pessimiste, je dis que c'est la National Gallery qui a la plus belle collection de peinture du monde. Quand les jours où je suis optimiste, je dis que c'est le Louvre.
Très bien. Un partout.
Un partout.
Oui. Et puis, avant de faire une petite pause, pouvez-vous nous livrer peut-être votre point de vue sur cette polémique au sujet du Louvre et Abu Dhabi?
Ah, j'attendais la question. Écoutez, moi je suis convaincu qu'aujourd'hui, les musées ne peuvent plus vivre repliés sur eux-mêmes. Je suis convaincu que les musées doivent partager ce qu'ils possèdent et s'aimer de par le monde, non pas définitivement, bien sûr, et dans des conditions de sécurité qui sont tout à fait prioritaires. Je suis convaincu qu'il faut, de ce côté-là, tenir compte d'une sorte de phénomène de globalisation, d'internationalisation qui est indispensable. Et puis, il y a d'autres raisons. On veut que le Louvre, ça c'est pas de mon temps, mais c'est une réalité qui a déjà commencé de mon temps, on veut que le Louvre soit un musée qui s'autofinance, c'est-à-dire qui puisse vivre sur ses propres ressources. On veut de moins en moins que l'État s'engage à payer les dépenses du Louvre. On veut de plus en plus que le Louvre trouve ses propres moyens de survivre, de vivre et de survivre. Et Abu Dhabi, c'est énormément d'argent. Le budget du Louvre, c'est 200 millions à peu près d'euros par an. 200 millions. Abu Dhabi, c'est 1 milliard.
Pour le fonctionnement, sans acquisition acquisition comprise.
Mais c'est très difficile de parler d'acquisition, oui. Parce que d'abord, elles sont très difficiles à chiffrer quand il s'agit de dons. Disons que le budget du Louvre, c'est 200 millions, acquisition exclue. Bon. Abu Dhabi, c'est 1 milliard. Donc, c'est 5 années du budget du Louvre. Et dans un moment où la situation économique du pays est ce qu'elle est, où on demande au Louvre de s'autofinancer, je me répète, c'est cette arrivée d'un milliard dont l'essentiel sera affecté au Louvre. Il y a déjà 400 millions d'euros qui ont été envoyés. C'est absolument indispensable. Donc je crois qu'il ne faut pas non plus se fermer les yeux sur ce qui est une priorité de tout président directeur du Louvre, assurer le fonctionnement, la bonne marche du musée dans des conditions financières acceptables.
Et quelle est notre contrepartie? Disons
La contrepartie, on ne le sait pas très bien encore. Elle sera incontestablement importante et de collaboration. Pour l'instant, les choses ne sont pas décidées dans le détail. Il y a la construction du musée par Jean Nouvel, comme vous le savez. Et puis, il y a des expositions, des œuvres qui seront montrées pendant assez longtemps. À mon avis, l'ouverture à des civilisations qu'à Abu Dhabi, on ne connaît pas, qui permettront en effet d'élargir la vision de l'Europe qu'on a dans ces pays-là. Donc moi, je crois que les contreparties, elles existent, elles sont lourdes, mais qu'elles ne peuvent être qu'utiles à une bonne entente et collaboration entre des pays qui se méfient les uns des autres.
Espérons seulement qu'il ne faille pas trop faire de concessions d'ordre moral ou
oui,
d'ordre religieux.
Vous avez tout à fait raison, c'est un effet. Ce qui me rassure sur ce point, et ça c'est vraiment la vraie raison de mon ralliement total à Abu Dhabi, c'est le point suivant. À l'origine, le projet a été politique, incontestablement. Il était entre les mains de politiques, d'énarques, de gens qui, sur ces questions-là, ne sont pas particulièrement soucieux de la préservation du patrimoine et de la transmission des collections dont nous avons hérité à nos successeurs. Le fait que le projet Abu Dhabi soit revenu entièrement entre les mains des conservateurs et du président directeur du Louvre me rassure. Car évidemment, ces conservateurs, ce président directeur, savent que ce qui est prioritaire, c'est la sauvegarde des œuvres, leur maintien en bon état, etc., etc. Tant que ce projet restera entre les mains de ceux qui savent ce que sont les œuvres d'art et de conservateurs de musées, je ne m'inquiéterai pas.
D'accord. Alors nous allons quitter pour quelques instants Abu Dhabi et le Louvre, Pierre Rosenberg, avant de plonger dans un autre thème qui parcourt tout le dictionnaire amoureux, l'histoire. L'histoire, les rois de France et autres faits marquants après une courte pause. Nous sommes toujours en compagnie de Pierre Rosenberg, qui nous introduit dans les coulisses d'un des plus grands et beaux musées du monde, avec son dictionnaire amoureux du Louvre. Alors faisons un grand bond en quatrième de couverture, où vous nous dites que le Louvre est une machine à remonter le temps. où il suffit de parcourir quelques centaines de mètres et on traverse des siècles. C'est dire que le Louvre, qui abrite l'histoire de l'art, traverse également la grande histoire, et en particulier notre histoire de France, celle de nos rois et même de nos révolutions. Et en nous reportant sur la lettre L, nous retrouvons la succession des rois Louis, de Louis XIII à Louis XVI, etc., sans oublier bien sûr notre Louis XIV. Alors, quel enseignement nous fournit le Louvre sur le royaume de France et ses souverains?
Alors, si la première chose, la quatrième de couverture que vous avez citée, c'est pas moi qui l'ai écrite, donc il faut pas me
donc vous êtes très libre de...
Alors, les rois de France. Ben, d'abord, le Louvre était, je le répète, le palais des rois de France jusqu'à la Révolution, bien que Versailles, à partir de 1671, ait véritablement été le lieu privilégié de la royauté. Donc, le Louvre a été même abandonné au XVIIIe siècle, et comme vous le savez, y vivaient les artistes qui habitaient autour de la cour carrée, que nous voyons de vos fenêtres d'ailleurs, autour de la cour carrée, dans des conditions de précarité et d'insalubrité extraordinaires. Mais ils y vivaient parce que c'était un grand honneur de recevoir un logement au Louvre. Tout le monde y a habité, je veux dire, Boucher, Chardin, Fragonard, David, tous ont habité ce Louvre qui était devenu assez pittoresque, il faut dire, et très très sale. Et puis, on oublie aussi que le Louvre avait des fonctions, si j'ose dire, un peu différentes. L'Académie française s'y réunissait. Et il a fallu attendre la Révolution pour qu'il s'installe en face, au Palais Mazarin, au Collège des Quatre Nations. Donc l'Académie française s'y réunissait, y tenait ses séances, y recevait les académiciens, etc. etc.
Qui était, je rappelle, créé par Richelieu.
En 1635. Mmh. Et puis l'Académie royale de peinture et de sculpture s'y réunissait également. Et surtout, elle y organisait tous les deux ans l'événement culturel européen qui était le Salon. Et le salon, pourquoi le salon? Parce que le salon, le mot salon, maintenant, tout le monde est habitué à le prononcer, sans s'interroger sur ce qu'il signifie. Eh bien, c'est tout simplement parce que le salon se tenait dans le salon carré du Louvre, qui existe toujours et qui n'est pas carré, d'ailleurs. Mais enfin, ce détail mis à part, tout va bien. Je l'ai remesuré moi-même. Et le salon, c'était vraiment l'événement de l'Europe pour qui s'intéressait à la sculpture, à la gravure, au dessin contemporain et surtout à la peinture. Tous les peintres académiciens, c'est-à-dire presque tout le monde, y exposaient, y montraient ses œuvres dont il était le plus fier, et on y allait en grand nombre. Le nombre de visiteurs d'un salon était comparable au nombre de visiteurs d'une grande exposition du Grand Palais aujourd'hui. Et le nombre de livrets, c'est le mot qu'on utilisait pour les catalogues à l'époque, le nombre de livrets qu'on vendait était impressionnant, 50 000 livrets. Donc c'était véritablement un grand... Et alors il y avait une fonction très importante au salon, c'était celui qui accrochait les tableaux. Parce que le salon carré n'est pas tellement grand, le salon débordait sur les espaces voisins du salon carré, mais il n'était pas tellement grand, et il y avait beaucoup de tableaux, et il fallait les présenter d'une manière cohérente. Il y avait de bonnes places, il y avait de mauvaises places, le roi était au centre quand il y avait un portrait du roi ou de la reine, et tout ça c'était très très programmé, et celui qui accrochait les tableaux au salon, c'était Chardin. Pendant quelques années, pas toujours. Donc Chardin a eu cette fonction capitale de placer les tableaux comme il l'entendait sur les murs, et en privilégiant ses amis, je suppose, ou les tableaux qu'il trouvait les meilleurs, et en mettant un peu dans l'ombre ce qui était un peu raté. Donc vous voyez, le Louvre de la royauté n'est pas du tout le Louvre que l'on croit, mais c'était quand même un bâtiment très important pour la vie culturelle parisienne. Alors évidemment, il y a cette grande galerie qui fait partie de ce qu'on a appelé le grand dessin. Qu'est-ce que c'était que le grand dessin? Le grand dessin était tout simple. Il s'agissait de réunir par deux ailes le Louvre aux Tuileries. Les Tuileries, c'était le palais de la reine, dans un certain sens, et le Louvre, c'était le palais du roi. Et puis, il fallait donc les réunir. Et c'est d'une part ce qui a été fait avec la grande galerie, qui était beaucoup plus longue à l'origine qu'elle ne l'est aujourd'hui, puisque d'un côté, elle a été amputée de ce qui est maintenant le salon carré, et que de l'autre côté, elle a été amputée parce que sont maintenant les salles qu'on appelle les salles de la peinture italienne du XVIIe et XVIIIe siècle, et par le cabinet des dessins. Si vous voulez, la grande galerie n'est pas aussi longue qu'elle l'était, mais elle a eu cette fonction de jonction entre ces deux bâtiments, les Tuileries et le Louvre. Et comme vous le savez, lorsque Poussin revient à Paris en 1640, appelé par Louis XIII et par Richelieu, il est appelé, entre autres, pour décorer, pour peindre la voûte de la Grande Galerie, ce qui lui a parfaitement déplu, ce qu'il n'était pas du tout capable de faire. Et dès qu'il a pu, il s'est échappé vers Rome. Il a prétexté qu'il fallait qu'il aille rejoindre sa femme qui était malade. Et donc il est parti en jurant qu'il allait revenir. Puis Richelieu et Louis XIII meurent à quelques mois de distance et il n'a jamais tenu promesse, il n'est jamais revenu. Et il avait d'ailleurs été très malheureux à Paris, malgré tous les honneurs dont on l'avait accablé. Et il n'était heureux en fait qu'à Rome. Donc, le grand dessin, c'est d'un côté la grande galerie, etc. Et de l'autre côté, la réunion toujours entre la cour carrée, si j'ose dire, et les Tuileries. Et cette réunion-là, au fond, elle a mis beaucoup plus de temps à se faire. Elle a été faite très artificiellement, en un certain sens. Les arts décoratifs occupent une partie encore de l'aile de cette autre aile. Et au fond, le grand homme de cette réunion, l'homme qu'on ignore toujours lorsqu'on parle du musée, l'homme qui a donné son unité au Louvre, l'architecte qui a vraiment joué ce rôle, c'est un architecte qu'on connaît mal, qui s'appelle Hector Le Fuel, et qui vraiment a été l'homme qui donne cette impression un peu fausse d'un palais parfaitement maîtrisé, conçu une seule fois pour toutes. Et naturellement, la destruction des Tuileries, la stupide destruction des Tuileries, après la Commune qui avait incendié le palais mais qui ne l'avait pas détruit, a rendu ce grand dessin, ce grand projet qui remonte à François Ier, à Henri IV, si vous voulez, a rendu caduque ce projet qui ne se fera donc, qui aujourd'hui n'a plus de raison d'être.
Oui, mais vous venez d'évoquer Hector Le Fuel, qui est donc un grand architecte pour la construction de ce musée.
Oui, tout à fait. Mais si vous voulez, le Louvre peut se visiter aussi en termes d'architecture. Parce que...
Voilà, justement, je voulais vous amener vers l'entrée architecte qui se trouve à page 101. Parce qu'il y a toute une succession d'architectes célèbres.
Le Louvre, c'est ça. Le Louvre, c'est d'une part des collections, et on va en parler tout à l'heure, et c'est d'autre part aussi une succession de grands architectes jusqu'à E.M. Paye, bien sûr, en commençant au XVIe siècle, une succession de grands sculpteurs, depuis Jean Goujon à l'intérieur et à l'extérieur, et jusqu'à Carpeau, bien sûr, et puis de grands peintres aussi. Il y a eu un effet Poussin dont je parlais tout à l'heure, mais de son décor, il n'en reste rien. Il n'a d'ailleurs jamais vraiment existé. Il y a eu d'autres peintres au XVIIe, comme Romanelli, qui ont décoré les appartements d'été d'Anne d'Autriche, qui sont des magnifiques décors. Et puis au XVIIIe siècle, vous avez la galerie d'Apollon, qui a été décorée par des artistes éminents également. Lebrun avait déjà commencé. Puis ensuite, naturellement, il y a Delacroix, il y a Ingres, et puis il y a Braque, naturellement. Et puis tout récemment, il y a cette magnifique réalisation d'Anselm Kiefer, qui est vraiment, qui à mon avis est merveilleuse, qui est tout près de la colonnade, et qui prouve que le musée a toujours su faire appel à des artistes vivants pour l'enrichir.
Mais qui est intervenu en tant qu'architecte ou en tant qu'artiste ?
Artiste, en tant que peintre, oui. Non, j'ai parlé d'abord des architectes, puis des sculpteurs, et puis maintenant j'en suis... Oui. Mais au point de vue sculpteur, évidemment, j'ai oublié, à la fois comme sculpteur et à la fois comme architecte, dans un cas avec succès ou un début de succès, dans l'autre cas avec un échec total, j'ai oublié le Bernin, bien sûr. L'homme que Louis XIV a fait venir à prix d'or de Rome, il était célébrissime, pour redessiner la façade du Louvre qui est aujourd'hui occupée par la colonnade, cette façade qui était pour Louis XIV la façade essentielle, l'entrée principale du musée. Il a donc dessiné des projets tout à fait passionnants que Louis XIV a donné l'impression d'avoir approuvé, qu'en fait il n'avait pas approuvé. Bernin repart pour Rome et on fait appel à ce moment-là à des architectes français pour une architecture tout à fait différente de celle de Bernin. Donc on ne sait pas très bien qui est l'architecte de la colonnade, disons que c'est Claude Perrault, ça peut être son frère Charles, ça peut être Levaux, toutes sortes de noms ont été prononcés. Une chose est certaine, c'est que la colonnade s'inscrit dans un mouvement général très important, qui est le moment où en France, en littérature, en peinture et dans toutes les autres formes d'art, Paris est en train de remplacer Rome, de prendre le flambeau de Rome et de s'affirmer comme la capitale européenne d'un nouveau style et d'un nouveau goût.
Oui, oui. Et vous pouvez nous rappeler la longueur, puisqu'on parlait au début de la Grande Galerie, elle a une longueur impressionnante, quelque chose
je
comme
sais plus
120
le chiffre
mètres
par...
ou quelque chose.
Oh non, elle a 300 mètres, quelque chose comme ça, je ne connais plus.
Non, mais avant, à l'origine...
Elle en avait 100 de plus, elle en avait 100 de plus. Ah oui. Elle en avait 100 de plus. On raconte que Louis XIII, il faisait des chasses à cours, plus ou moins, enfin, il s'y promenait avec ses amis. En fait, c'était en 30 ans, cette espèce de grande galerie-là, pour un enfant, Louis XIII jeune, bien sûr, s'y amuser, c'était naturel.
Oui, oui.
Il y avait des chameaux, il y avait un chameau qu'on lui avait donné et qu'on y a promené un temps. Il y a beaucoup de petites anecdotes.
Oui. Qu'on trouve bien sûr dans le
livre,
dictionnaire.
Publié par les éditions Plomb, je le dis.
Oui, j'allais le rappeler à la fin. Oui. Et au sujet du carrousel du Louvre, là aussi, il y a tout un pan de l'histoire de France qui s'y déroule.
Bien sûr, parce que Louis XIV aimait les fêtes, et donc il y organisait des fêtes dans ce carrousel, avec chevaux, et lui-même se costumait, il y avait de la musique, enfin, c'est un lieu de plaisir en même temps. C'est d'ailleurs assez amusant de parler du carrousel, parce qu'il y a bien sûr maintenant, dans plus ou moins cet emplacement, le petit arc de triomphe qu'on connaît, qui a été voulu par Napoléon pour glorifier les armées conquérantes de l'Europe. Très jolie construction, due à Percier et Fontaine, commandée part de nom, et qui avait été orné sous l'Empire, avec à son sommet les chevaux de Saint-Marc. Mmh. Avant, qui avait été pris par les Vénitiens à Constantinople, chevaux qui venaient eux-mêmes de Grèce et qui ensuite sont venus à Paris sous l'Empire avant d'être rendus à Saint-Marc, à Venise. Qui sait si un jour Venise ne sera pas obligée de les rendre à leur lieu d'origine. Enfin, après tout, on n'en sait rien. Donc les chevaux de Saint-Marc couronnaient l'Arc de Triomphe du Carrousel. Ce qu'on sait moins, c'est qu'à l'emplacement de l'Arc de Triomphe du Carrousel se trouvait la petite maison donnée ou louée, non pas louée, enfin offerte par Louis XIII à Poussin et qu'il habita durant son séjour à Paris entre 1640 et 1642.
Oui, mmh. Oui. Écoutez, je vous propose une autre petite pause avant de nous plonger alors dans les magnifiques œuvres. Demandez Pierre Rosenberg maintenant de nous conduire vers quelques tableaux que vous affectionnez particulièrement. Et puis je vous proposais des noms principalement choisis dans vos siècles favoris, le 17e et 18e français. Vous avez consacré d'ailleurs à certains des plus grands artistes de ces deux siècles des ouvrages et des expositions. Vous avez organisé énormément d'expositions aussi. Et puis sans parler de votre bibliographie qui est absolument infinie. Donc, par exemple, sur la tour, le nain ou les frères le nain, Poussin surtout, tous les chemins mènent à Poussin, Watteau, Chardin, Fragonard, David. Alors, passons directement à Nicolas Poussin. D'accord.
Ah oui, c'est mon grand ami.
Oui.
Il y a eu en ce moment une exposition qui, j'en viens, que j'ai faite, qui a lieu au Metropolitan Museum de New York et qui a pour titre Poussin et la nature et non pas Poussin et le paysage. Et je crois que c'est déjà assez important d'avoir choisi ce titre Poussin et la nature parce que ça montre bien que Poussin ne peint jamais ce qu'il voit, mais que tout ce qu'il voit, il le transforme. La nature, c'est quelque chose de grandiose, de mystérieux, le printemps, l'été, les saisons, les fleurs, comment est-ce qu'elles naissent. Toutes ces questions, Poussin se les pose dans ses tableaux. Oui. Et l'exposition justement dont je parle, l'exposition du Metropolitan Museum, aborde à travers les dessins et les tableaux de Poussin cet aspect-là de Poussin, peintre de la nature.
Oui.
Du mythe de la nature.
Mais dans le dictionnaire, vous parlez particulièrement des bergers d'Arcadie et de l'autoportrait, par exemple, ou aussi encore du ravissement de Saint-Paul. Est-ce que vous voulez bien nous en dire
les bergers d'Arcadie, si vous voulez les bergers d'Arcadie. Il y a deux fois Poussin a peint ce sujet. Une première fois, dans un tableau qui est en Angleterre, il y a sur la tombe un crâne. Car qu'est-ce qu'on voit sur le tableau? On voit des bergers qui regardent une tombe. Et avec des expressions différentes. Alors, il y a encore un crâne sur le tableau d'un anglais. Il n'y a plus de crâne à Paris. En revanche, il y a marqué sur la tombe « Et in Arcadia ego ». Parce que nous sommes en Arcadie. Qu'est-ce que c'était que l'Arcadie? C'était un pays merveilleux où tout le monde vivait dans le bonheur, dans la joie permanente. C'était le pays de la félicité. Alors là, les bergers trouvent ce tombeau avec cette inscription, plus de crâne, avec cette inscription « Et in Arcadia ego », qui veut dire, traduit en français, « et même en Arcadie ». Alors qu'est-ce qu'il y a en Arcadie, dans ce pays merveilleux? Eh bien, même en Arcadie, il y a la mort. Parce qu'il y a une tombe, et sur cette tombe, les bergers regardent la tombe, il y en a un qui déchiffre, et qui commence à comprendre « Et in Arcadia », et il y a la mort qui les attend. Et puis il y en a un autre qui a déjà compris, et qui réfléchit à cette mort qui l'attend, et qui du coup prend une attitude plus recueillie, plus profonde. Et puis, il y a une chose qu'on a remarqué il y a assez peu de temps, le bras d'un des bergers fait une ombre sur la tombe, et cette ombre a la forme d'une faux. Donc la faux qui va nous faucher tous. Donc c'est une poésie morale, pour reprendre les termes des historiens de Poussin du XVIIe siècle, et c'est une manière, à travers un tableau, de nous montrer que cette mort, elle nous attend, nous aussi. Aussi heureux soyons-nous. Et Poussin nous demande de réfléchir à la mort et de l'affronter, chacun avec ce qu'il est. C'est un tableau relativement tôt dans la carrière de Poussin, nous sommes juste avant 1640, et c'est déjà c'est un tableau moral, si vous voulez. C'est donc un aspect de la pensée de Poussin, qui est une pensée qui changera beaucoup. Il s'intéressera moins aux hommes avec les années, mais plus au contraire au cycle de la nature dont je parlais tout à l'heure. Mais cependant, il montre bien déjà ce qui a été la grande ambition de Poussin, c'est-à-dire de nous obliger à nous arrêter devant les œuvres, à nous interroger sur ce qu'elles veulent dire et à nous remettre en cause nous-mêmes dans nos idées et donc de nous enrichir esthétiquement par la beauté des œuvres, mais aussi moralement par le message, j'ai pas beaucoup utilisé ce mot, que ses œuvres délivrent.
C'est un peintre très introverti, très réfléchi.
On l'a surnommé un peu exagérément le peintre philosophe. Pour lui, évidemment, la peinture, c'est pas simplement c'est la délectation, c'est le plaisir des œuvres, mais c'est aussi c'est un peintre difficile. L'accès à Poussin est très difficile. Il a mis, comme je le dis souvent, la barre un peu haut, très haut. Mais une fois qu'on est entré dans ce monde, qu'on a trouvé son chemin de Damas, c'est une des réflexions les plus extraordinaires, une des aventures spirituelles dans l'histoire de la peinture sans équivalent. Et les bergers d'Arcadie, c'est en effet un de ces tableaux. Il y a des tableaux plus importants que de Poussin, il y a des tableaux plus beaux. Le Louvre a la chance d'avoir une collection exceptionnelle, grâce à Louis XIV, de tableaux de Poussin. Et naturellement, le grand chef-d'œuvre, ce sont les saisons, c'est clair.
Oui. Oui. Qui était à un moment donné, qui avait un emplacement particulier.
Oui, mais c'est pas. Je crois qu'ils vont que mon successeur aux peintures va le changer. Il a raison. Alors les saisons. D'abord, c'est assez amusant. C'est des tableaux qui sont les derniers tableaux de Poussin ou presque, entre 1660 et 1664. Ce sont donc le printemps, l'été, l'automne et l'hiver. C'est bien clair. Ils ont été achetés ou commandés, on ne sait pas très bien, par le neveu de Richelieu, le petit neveu de Richelieu, s'appelait le duc de Richelieu. Alors il avait ces tableaux. Il était très content. Il avait 13 Poussins et il rentre. Il est à Paris et Louis XIV est en train de constituer ses collections. Il veut que Versailles est la plus belle collection de peinture imaginable. Et il sait qu'il faut qu'il accorde à Poussin, alors admiré et considéré comme vraiment un des artistes les plus importants de l'Europe, vraiment admiré partout, que donc ses collections soient riches en Poussin. Alors le duc de Richelieu, c'est un noble, on n'a pas le droit de lui acheter de tableau, ça ne se passe pas avec... Alors comment faire pour mettre la main sur les 13 Poussins, et d'ailleurs de quelques autres tableaux, je crois qu'il y avait 25 en tout qu'il voulait, du duc de Richelieu. Alors ils inventent un petit stratagème, ils vont jouer à la paume ensemble. Le jeu de paume, c'est une sorte d'ancêtre du tennis. Alors naturellement, le duc perd. Et du coup, l'enjeu de la partie de paume, c'était les tableaux. Donc, il donne les tableaux à Louis XIV. On est en 1665, l'année de la mort de Poussin, d'ailleurs. Il donne les tableaux et Louis XIV lui fait don, à son tour, d'une bourse de 50 000 livres. Alors, ce n'était pas comme ça. Ces deux grands de ce monde n'ont pas fait d'action commerciale parce que le commerce était indigne d'eux. Mais c'est comme ça que les saisons sont entrées dans les collections de Louis XIV, fort heureusement.
Oui.
Dans les saisons, il y a évidemment... c'est en même temps... Donc, ce sont les quatre saisons. C'est les quatre moments du jour, le matin, la fin du jour et la nuit. C'est aussi les quatre âges de l'homme, depuis Adam et Ève jusqu'au déluge. C'est aussi quatre moments essentiels de la Bible. Les quatre grands moments d'humanité. Et ça se termine plutôt mal, puisque sur le déluge, c'est la fin de l'humanité.
Oui. Donc, c'est tout de même très sombre.
C'est très sombre. C'est très sombre. Et ça veut surtout aussi dire que la nature, elle, survit à l'homme. Et qu'elle continue dans ses cycles, du printemps, de l'été, etc. Et que nous ne sommes que de passage. L'idée que l'homme n'est que de passage sur la terre. Et qu'au contraire, la nature elle-même, pour autant qu'on la violente pas trop, continue, est une idée très chère à Poussin. Et on le sent dans les tableaux qu'il y a cette idée. Donc, un peintre qui est capable, avec ses seuls pinceaux, Poussin disait lui-même qu'il faisait profession de choses muettes, les tableaux sont des choses muettes, un peintre qui est capable, dans des tableaux, d'évoquer et de peindre de tels sujets qui nous concernent tous, parce qu'après tout, la fin du monde, elle n'est peut-être pas si loin que ça, on en parle, comme on dit, l'idée de peindre ce genre de sujet est extraordinaire,
oui.
Absolument extraordinaire. C'est une grande méditation, c'est le testament artistique de Poussin, mais ça montre aussi que la peinture, c'est pas simplement des vues de la Seine peint au printemps. Ça peut être autre chose de plus ambitieux.
Et son autoportrait ?
Alors, il y en a deux. Il en a fait deux. L'un est à Berlin, l'autre au Louvre, fort heureusement, qui est entré au Louvre sous la Révolution, d'ailleurs. Celui du Louvre est le plus beau. Il l'a fait pour un ami. Et d'ailleurs, c'est très amusant parce que à l'arrière-plan de cet autoportrait, il y a des cadres. Il y a des cadres de tableaux non peints ou renversés. Et puis, sur la gauche du tableau, il y a une dame avec un diadème et il y a deux bras qui la tiennent, cette dame. Et qu'est-ce que c'est ? C'est l'amitié. c'est l'amitié entre Poussin qui est à Rome et le commanditaire du tableau qui lui est à Paris, c'est Chanteloup. Et les deux bras sont là pour montrer qu'en dépit de la distance entre Paris et Rome, entre Rome et Paris, l'amitié détruit ces distances, les efface, et que l'amitié, c'est un sentiment noble. Donc vous voyez, il se peint lui-même, mais il peint aussi l'amitié qui l'unit à son commanditaire. Alors c'est le Poussin très officiel, avec toge, etc., etc., mais avec les yeux rougis. Et c'est le portrait de quelqu'un qui, en 1650, date du portrait, il avait 56 ans, et était une grande vedette. Je veux dire, par là, à Rome, on le sait, quand il se promenait, les gens allaient sur son passage, parce que il fallait l'avoir vu marcher dans Rome, si vous voulez. C'était un peu... Sa gloire était comparable à celle de Picasso, enfin, si vous voulez, c'était un grand personnage de Rome. Il faisait partie des attractions de la ville.
Ah oui, oui. Mmh. Vous dites que vous l'aimez, Poussin, oui, oui. On l'entend. Et nous aussi, on se prend à l'aimer grâce à vous.
Mais je répète, il faut du temps.
Votre
récit. C'est bien que le Louvre ait ses tableaux. Parce que le Louvre, ça peut se visiter de 36 manières. C'est évident. On peut y aller, je le raconte dans mon petit livre, en se disant, je vais aujourd'hui regarder tous les nombrils, par exemple. Et puis dire, quel est le plus beau nombril du Louvre ? Par exemple, c'est une manière. Moi, j'ai ma réponse. Ou bien, au contraire,
ah bon,
oui, ou bien la plus belle main. Oui, j'ai étudié les nombrils. La plus belle main, ou bien... On peut choisir ce qu'on veut quand on visite le Louvre. Mais il y a aussi une manière de le visiter que je trouve la bonne, qui consiste à se dire, avant d'y aller, je vais regarder 2-3 tableaux. On peut, si on veut, si on est très scrupuleux, ou très... avant de les voir, ces tableaux, lire un peu quelques notices de catalogue ou quelques notices de dictionnaire sur ces tableaux, et puis de se contenter de ça, et rester assez longtemps devant les tableaux. Parce qu'il y a une chose qu'il faut que nos contemporains ne prennent pas suffisamment en compte, qui est la suivante. Quand on allait à Rome, au XVIIe ou au XVIIIe siècle, on savait qu'on n'y retournerait pas. Donc, le voyage était la grande aventure d'une vie. Et on regardait les œuvres avec beaucoup d'attention, parce que justement, on savait qu'on ne les reverrait plus. Aujourd'hui, on prend l'avion, ça prend 2 heures, paf, on se dit, on va revenir. Et puis, il y a les cartes postales, il y a la télévision, il y a tout ce que vous voulez. Donc, les gens d'autrefois passaient plus de temps devant les œuvres, se concentraient beaucoup plus dans leur examen de ces œuvres, et les comprenez d'une autre manière. Nous sommes trop pressés devant les tableaux, surtout pour la peinture ancienne, surtout pour un peintre comme Poussin qui est difficile, je répète, très difficile. Et je crois que le conseil qu'on peut donner à ceux qui vont au musée, c'est de prendre leur temps pour peu d'œuvres. Je crois que c'est capital. Et entre 2 œuvres, si on est un peu fatigué, parce qu'on n'est pas obligé d'en... On peut pas, la concentration devant les œuvres est limitée. Par conséquent, il faut pouvoir se distraire. Alors, il y a les fenêtres. Je me suis beaucoup battu quand j'étais président directeur pour qu'il y ait le plus possible de fenêtres, avec les vues admirables qu'on a du Louvre. Et je reprends d'ailleurs un mot célèbre de Bonnard, ce qu'il y a de plus beau dans un musée, ce sont les fenêtres, il n'a pas tout à fait tort. Donc, il y a les fenêtres pour se reposer entre 2 tableaux.
Dans ce livre, dans votre dictionnaire, vous en parlez particulièrement dans la salle de...
Claude. Oui, oui. Là, j'ai battu,
Claude,
je me suis battu pour une fenêtre.
Il faut dire que les lumières dans...
Oui,
dans...
alors les fenêtres, on les a des inconvénients.
Sur ces tableaux.
Oui, c'est merveilleux. Claude a besoin de la lumière du jour. Parce que je me suis aussi beaucoup battu pour la lumière du jour. C'est qui est une lumière qui fait vivre les tableaux. Alors que la lumière artificielle les tue. En tout cas, ces fenêtres sont à mon avis indispensables pour le repos des visiteurs. Elles ont des inconvénients qui expliquent que les conservateurs ne les aiment pas suffisamment. Se battent parfois contre elles. C'est que les fenêtres, d'une part, vous prennent de la surface de mur. Et puis d'autre part, donnent des reflets. C'est-à-dire que vous avez un tableau en face de la fenêtre, mais en dépit de la place perdue, à cause des fenêtres, en dépit des reflets sur les tableaux, je crois que cette lumière est indispensable. Mmh. Alors il faut en accepter les inconvénients pour profiter de ces avantages.
Mais si vous voulez bien, Pierre Rosenberg, on peut regarder la diseuse de Bonaventure du grand Georges de la Tour, mais qui exceptionnellement ne se trouve pas au Louvre, mais... À New York, au Metropolitan.
La diseuse de Bonaventure est à New
York. Enfin, il y en a plusieurs, mais celle de la Tour.
Ah oui, oui, je vois ce que vous voulez dire. Oui, c'est un des tableaux qui manque au Louvre cruellement, qui a quitté la France dans des conditions douteuses, pour dire les choses. C'est évidemment un des plus beaux tableaux de Georges Latour. Si je lui ai consacré une notice dans le dictionnaire amoureux, c'est parce que justement, il n'est pas au Louvre et que je le regrette. Et que je voulais un peu raconter l'histoire du tableau, qui est un tableau qui est évidemment très cruel, puisqu'elle montre comment les jeunes un peu innocents sont roulés et sont trahis par les bohémiennes et par les femmes de mauvaise vie. Si j'en ai parlé dans ce dictionnaire, c'est non seulement pour regretter que le tableau ne soit pas au Louvre, non seulement parce que c'est un grand chef-d'œuvre aussi de la peinture, mais aussi pour attirer un peu l'attention sur toutes les polémiques qu'il y a toujours autour des tableaux. Ce tableau-là, on a longtemps cru qu'il était faux. C'était parce que pour une raison très simple, c'est que les costumes que porte la bohémienne sont des costumes d'invention. Comme si Georges Latour n'avait pas le droit d'inventer des costumes. Alors, du fait que ces costumes n'existaient pas au XVIIe siècle, mais sont de l'invention de Georges Latour, on a pu prouver, on a voulu faire croire que le tableau était un faux. Alors, j'ai eu la chance de découvrir un document d'archives qui prouve que le tableau existe dans une collection en Normandie en 1881, ou quelque chose comme ça, et que de ce fait, il ne pouvait pas être faux, puisque personne n'aurait, en 1881, pensé faire un faux Latour. Donc il faut beaucoup se méfier devant les spécialistes de l'histoire des costumes qui peuvent parfois vous induire en erreur. Le tableau est magnifique et j'ai un grand faible pour la petite bohémienne sur la gauche du tableau, la deuxième figure avec ses cheveux de jais, ses cheveux noirs et son petit regard. Elle a l'air très coquine, que ce soit une bohémienne c'est certain, mais j'ai un grand faible pour elle. C'est une des très jolies personnes de l'histoire de la peinture.
Oui, je crois que vous l'aimez beaucoup.
J'aime beaucoup Latour. J'ai joué un rôle modeste dans sa redécouverte, puisqu'après tout, Georges Latour est un nouveau venu dans l'histoire de l'art. On l'ignore.
Oui, c'est toute une aventure pour l'avoir retrouvé.
Absolument. Georges Latour, c'est 1915, le premier grand article sur lui. C'est 1934, les peintes de la réalité. Puis c'est l'exposition que j'avais faite avec Jacques Tuilly en 72. Donc voilà, c'est un peintre qui est entré dans l'histoire de la peinture, dans les livres d'histoire de l'art, que de mon vivant, si j'ose dire. C'est ça l'histoire de la peinture. C'est le goût change, c'est la découverte de grands artistes, comme Le Nain au XIXe siècle, ou Vermeer aussi au XIXe siècle. Et il y a des artistes auxquels je me suis attaché, parce que j'aurais voulu qu'ils redeviennent à la mode. J'y ai parfois réussi, pas toujours.
Oui, il était très célèbre de son vivant et il a disparu comme d'autres d'ailleurs. Oui. J'ai retrouvé dans mes papiers secrets un article de votre part, L'œil et les regards, lors d'une séance publique annuelle des 5 académies que vous avez prononcée, enfin une communication que vous avez prononcée en 1997. Parlant de Latour, justement, et parlant
de sa redécouverte.
Et si vous voulez, je lis juste une petite phrase, parce qu'elle est bien significative. Donc, peu à peu, les prestiges du pinceau s'effacent chez Latour. Les couleurs flamboyantes, rougeoyantes, pâlissent. L'univers étroit est réduit à l'essentiel. Seule demeure la peinture pure, pessimiste et sans complaisance. Elle fascine. Retenons notre souffle.
Oui, c'est bien ça. C'est un peintre qui vous coupe le souffle. Alors, c'est un peintre rare. Et chacun espère retrouver un Latour un jour ou l'autre, comme j'ai eu la chance de le faire avec le Saint-Jean-Baptiste, qui est un merveilleux tableau qui est apparu à l'hôtel Drouot, dans une salle misérable, et qui maintenant est le dernier grand chef-d'œuvre de Georges Latour, qui maintenant est au musée de Vic-sur-Seille, qui est la ville natale de Georges Latour.
Et que vous avez découvert
vente. Ah oui, c'est moi qui l'ai découvert, pas de doute là-dessus.
Merci, je suis trop... pour la postérité.
Oui. Non, je ne sais pas. On me cite souvent pour avoir découvert ce tableau, bon, c'est flatteur, mais comme si c'était le seul que j'avais trouvé, ça me vexe. Moi qui suis plutôt connu pour, en effet, avoir découvert des tableaux et plutôt connu pour une qualité que je crois posséder, mais...
vous avez l'œil.
Voilà, c'est ça. Mais on n'y peut rien. On n'y peut rien. L'œil, c'est quelque chose qu'on a de naissance, qu'on doit cultiver, qu'il faut pratiquer. Mais c'est un don qu'on vous donne, que le ciel, s'il existe, vous donne. Mais un don qu'on a ou qu'on n'a pas. Donc, on me gratifie de cet œil dont je ne suis pas responsable.
Un autre peintre dont on peut parler parce qu'il fait le portrait de notre bienfaiteur, on peut dire, en tout cas le créateur de l'Académie française.
Ah, vous voulez parler de Champagne.
Donc Philippe de Champagne.
Oui. J'aime beaucoup Philippe de Champagne, qui a eu droit à des expositions tout récemment, et dont je m'occupe d'ailleurs un tout petit peu en ce moment. Évidemment, un peintre qui vient de Bruxelles, qui est un peintre du Nord, et ça a été un très grand portraitiste. J'aime surtout, naturellement, le tableau qui vient d'être restauré par le Louvre, qui sont les portraits de sa fille, Philippe de Champagne, et de Mère Angélique Arnaud, les supérieurs de Port-Royal des Champs. Ce qui est extraordinaire chez Champagne, et qui est, à mon avis, malgré qu'il soit d'origine nordique, malgré que ce ne soit pas proprement parlé un peintre français, mais il l'est profondément en l'occurrence, c'est la manière dont il peint ce miracle. Qu'est-ce que nous montre le tableau ? Il nous montre le moment, non pas de la guérison de la fille de Philippe de Champagne, mais le moment où cette fille et sa patronne, si j'ose dire, la supérieure du couvent, reçoivent le message qu'elle va guérir. C'est-à-dire qu'un peintre espagnol aurait peint le miracle. Un peintre italien aurait peint lui aussi le miracle. Alors, si ça avait été un espagnol, ça aurait été le miracle avec beaucoup de sang, etc. Un peintre italien, il aurait lui aussi un petit peu montré le miracle d'une manière descriptive. Ce qu'il y a d'intéressant chez Philippe de Champaigne, et qui est un point qui l'unit à l'histoire de la peinture française plutôt qu'à une autre école, c'est le fait qu'il ne peigne pas le miracle, mais l'annonce du miracle, dans un silence total, dans une économie de moyens absolue, puisqu'il n'y a que des blancs, des noirs, et puis des croix rouges, et une tache de bleu à gauche et à droite, et qu'au fond, c'est le miracle de l'annonce du miracle qui est peint, et non pas le miracle lui-même, donc l'idée qu'un miracle va se produire et qu'il est annoncé. Et de tout dans un silence absolu, dans un recueillement profond et surtout sans mouvement et sans volonté expressive. La peinture française n'est jamais expressionniste. Elle est toujours silencieuse. Elle est toujours composée avec une grande rigueur. On peut naturellement toujours citer des exceptions à ces généralisations qui ne me plaisent guère. Mais elle a quand même toujours ce goût du silence et de la retenue, d'une réserve, d'une grande pudeur. C'est une peinture extrêmement pudique. Et c'est vrai pour toute l'histoire de la peinture française. Même Boucher et Fragonard sont pudiques.
Oui, mais pour revenir à Philippe de Champaigne, oui. Il avait quand même rejoint le mouvement des jansénistes.
Oui.
Donc il était quand même, très intériorisé.
Oui, bien sûr. Les sentiments religieux de Champaigne, on croit les connaître. Il y a à l'heure actuelle des tendances qui disent qu'il était moins janséniste qu'on le croit. Mais enfin, je crois qu'un artiste a ses sentiments religieux, a ses croyances religieuses, et qu'il a sa peinture. Et que ce n'est pas forcément sa peinture qui reflète ses idées religieuses.
Je vous propose de passer au 18e quand même.
Oui.
Watteau, le pèlerinage à l'île de Sutter, tellement connu, mais quand même on aimerait bien avoir quelques mots de votre part.
D'abord le titre, le pèlerinage à l'île de Sutter est un titre ambigu. Parce que, est-ce que ça veut dire que les pèlerins vont à l'île de Sutter? Ou bien est-ce qu'il le quitte, cette île de l'amour? Est-ce qu'il la quitte, cette île de l'amour? Il y a l'ambiguïté du titre, et je crois qu'il y a aussi l'ambiguïté du sujet. Parce que, est-ce que le tableau est gai? Et est-ce qu'ils sont joyeux de gagner cette île de l'amour? Ou est-ce que le tableau est triste? Et est triste parce que ces amoureux abandonnent cette île de l'amour. Et ça, vous pouvez le regarder comme vous voulez, aussi longtemps que vous voulez, vous pouvez l'interpréter comme vous voulez dans les deux sens. C'est-à-dire qu'il y a une profonde ambiguïté dans le sujet du tableau, île de l'amour vers laquelle on se rend, ou île de l'amour que l'on quitte à regret. Et je crois que l'ambiguïté que Watteau a laissé planer sur le sujet est volontaire, est voulue, et qu'il a voulu que nous-mêmes, nous choisissions l'interprétation que nous souhaitions selon notre propre humeur du jour. Alors c'est évidemment un tableau merveilleux avec cette grande guirlande de personnages qui vont ou qui quittent l'île, avec des couleurs tout à fait raffinées, un rythme, une poésie. Mais là encore, pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, c'est le silence, la poésie, l'absence de toute volonté expressive, et, comme je le disais aussi, cette espèce d'intériorité, d'ambiguïté des sentiments, qui, à mon avis, bien sûr, doit beaucoup à Rubens, il ne faudrait pas l'oublier, et à la peinture vénitienne de Giorgione, si on veut compléter, mais qui, quand même, contrairement à Giorgione, est une peinture profondément intérieure et nullement extériorisée, une peinture de quelqu'un d'introverti et non d'extraverti.
Comme Chardin, vous parlez de l'arrêt, par exemple.
Oui, bien sûr. J'aime beaucoup l'arrêt.
Ou la tabagie, pipe et vase à boire.
Je préfère. Oui,
des natures mortes absolument.
Oui. Ah, moi, pour moi, c'est le grand peintre du 18e. J'ai beaucoup travaillé sur Chardin. Je le reconnaîtrais s'il se promenait dans ce 6e arrondissement que j'habite et qu'il a habité avant d'habiter le Louvre. Il habitait le 6e arrondissement.
Vous connaissez la rue?
Oui, je la connais, la rue, absolument. La maison où il est né était détruite. Mais je sais parfaitement où elle est. Je ne pourrais plus le dire maintenant, mais elle est tout à fait à l'endroit où la rue Bonaparte coupe la rue du Four, par là, quelque part par là. Je le sais très précisément, au mètre près. Je ne m'en souviens plus maintenant. Mais il habitait là. Son père y fabriquait des billards. Et puis, quand il a eu un certain âge, il a été appelé par Louis XV pour habiter le Louvre. Donc, il a une carrière extraordinairement parisienne. Il n'a jamais dû aller plus loin que Corléans, et encore. Il est resté... C'était un homme de la ville. Pas du tout un homme de la campagne. Ce qui est extraordinaire chez lui, ce sont bien sûr ces scènes de genre, mais surtout ces natures mortes qui paraissent si simples et qui sont si difficiles. Et il a eu son poète qui l'a compris mieux que nous tous et que personne, qui était Diderot, qui a magnifiquement parlé Diderot de Chardin. C'est vraiment, il est à la fois béat d'admiration et en même temps il essaie d'exprimer cette admiration qu'il porte, et on voit qu'il cherche ses mots, on n'entend rien à cette magie. Ça, c'est Diderot. Et en effet, on n'entend rien à cette magie. C'est-à-dire que c'est fait, c'est peint lentement, en couches superposées, et c'est en même temps profondément émouvant. Ces lapins morts, ces animaux toujours, en effet, morts, parce que ces canards, tous ces oiseaux, mais qui ne peint jamais vivant. Et en effet, il prenait du temps pour peindre, et pour obtenir ce ne soit pas simplement des photographies de ce qu'il voyait, mais des choses vues de l'intérieur. C'est-à-dire que là encore, comme c'est la mort.
C'est la mort,
et le temps qui passe, c'est le silence, c'est l'absence, c'est tout à fait hors du temps. Il n'y a aucune temporalité dans les œuvres de Chardin. On est hors du temps. Il vous projette dans son monde, qui est un monde qui nie ce qui se passe, le bruit de la rue, tout ça, ça n'existe pas. Alors les peintres ont très souvent cru qu'ils pouvaient faire des Chardins. Ils s'y sont tous essayés, et très peu, pour ainsi dire, aucun n'y est arrivé. Il y a un petit mystère, une petite poésie de Chardin. C'est, si vous voulez, mes deux grandes passions, c'est Poussin et Chardin, ces deux peintres à la fois extraordinairement différents l'un de l'autre. L'un est un intellectuel, un vrai intellectuel avec une culture très étendue, un lecteur de Montaigne, quelqu'un qui avait une vraie ambition intellectuelle.
Poussin,
bien entendu. L'autre est beaucoup moins éduqué. Il a d'ailleurs souffert de cette éducation qui lui avait manqué. Mais ils sont en un certain sens complémentaires. Et selon le jour, on a le droit de s'arrêter, comme le dit Diderot d'ailleurs, devant un tableau de Chardin, parce que c'est la fontaine, c'est le bruit de l'eau, c'est tout ça qui... Enfin, c'est l'évasion. Devant un tableau de Poussin, quand on est dans une humeur plus ambitieuse, plus morale.
Et un autre personnage dans cette galerie de portraits, on peut dire, Boucher. Par exemple, vous parlez de Diane Aubin.
Oui, j'aime beaucoup Boucher, bien sûr. J'ai moins travaillé sur Boucher que sur les autres artistes que vous avez mentionnés. C'est un peintre un peu passé de mode. Il a trop peint. J'en parlerai peu parce que c'est une peinture beaucoup plus facile, mais totalement artificielle. Parce que si vous essayez de transposer ce qu'il nous montre dans une réalité, c'est complètement faux. Toutes ces scènes de Diane Aubin, par exemple, c'est un bon exemple. On dirait qu'on est dans un aquarium. Il y a une espèce d'artificialité chez Boucher qui est très curieuse, en fait. Il veut à la fois nous montrer un monde de nymphes pour nous allécher, et en même temps, tout ça est tout à fait artificiel. C'est très curieux. C'est très curieux. Mais il y a quelques tableaux admirables chez Boucher.
Oui.
Il y a un dessinateur superbe.
Et si vous voulez bien terminer peut-être avec Fragonard.
Oui, j'ai beaucoup travaillé sur Fragonard.
Le livre.
Ah ben le verrou.
Il y a le verrou, alors donc on ne peut pas, il est incontournable.
Oui, c'est un tableau qui est de mon temps, si je veux dire. On appelle les tableaux qui sont de votre temps ceux que vous avez achetés vous-même. J'en ai acheté pas mal de tableaux quand j'étais au Louvre, bien sûr, et le verrou notamment, qui nous a valu d'ailleurs plein d'ennuis.
Ah, c'est vous qui l'avez acheté ?
Oui, bien sûr.
Était où ?
Il était chez un marchand qui est mort récemment.
Ah oui ?
Oui, oui. Oh, ben, il y a pas mal de tableaux que j'ai un peu vanillé. Avec une certaine note de vanité, j'ai un petit peu privilégié les tableaux dans ce livre dont je suis responsable. Si
ah oui.
L'Antonin Le Damé, c'est un peu mal de tableaux là que j'ai privilégié parce que j'ai joué un rôle plus ou moins grand selon les circonstances dans leur entrée dans les collections du Louvre.
Parce que le verrou est presque emblématique pour Fragonard.
Oui, absolument. Il l'est devenu. Et personne ne peut croire qu'il soit entré au Louvre, qu'il est entré au Louvre depuis si peu de temps.
Mais oui.
C'est très curieux. Alors là, évidemment, c'est Fragonard âgé. C'est plus le Fragonard qui peint l'épiderme, qui peint la surface des choses et la jeunesse très jeune. Là, dans le verrou, il y a une ambiguïté parce que, bien sûr, le jeune homme pousse le verrou, mais est-ce qu'elle lui résiste vraiment ou est-ce qu'elle est déjà conquise ? Là encore, il laisse planer un doute. Et puis il y a ce lit ouvert, ce grand lit ouvert sur la droite. Qu'est-ce qu'il est, ce lit ? Il est tout, si vous voulez. Et alors, est-ce qu'elle lui résiste encore un peu ou est-ce qu'elle est déjà complètement conquise ? Et puis, il y a ces choses extraordinaires, en plein centre du tableau, une pomme. Une pomme. On ne la voit pas sur la photo que vous regardez. Mais il y a une pomme. Et cette pomme, bien sûr, c'est la pomme d'Adam et Ève, c'est la pomme du péché. Donc, dans ce tableau profondément profane, qui est le symbole de l'amour physique, et en même temps d'une certaine...
Ironie.
Non, pas d'ironie.
Non,
pas d'ironie dans le tableau. Mais il y a en même temps ce rappel religieux, qui peut s'expliquer parce que le commanditaire du tableau à Fragonard avait aussi commandé un pendant. Les deux tableaux sont au Louvre, fort heureusement. Et le pendant, c'est une adoration des bergers. Donc, en pendant de cette scène d'amour qui est le verrou, cette espèce de poésie très forte sur l'amour physique, il a peint l'adoration des bergers. Et la pomme est là pour nous rappeler justement le symbole du péché.
Oui.
Le symbole du péché.
C'est merveilleux, absolument. Mais écoutez, le temps, bien sûr, nous a manqué pour parler des autres écoles, l'école italienne, flamande, allemande, etc. Peut-être pourrions-nous réserver un autre moment, rien que pour parler, je ne sais pas, des Fra Angelico, des Leonardo, des Michel-Ange, Caravage, Rembrandt, Bruegel, et tous ces artistes qui ont contribué à la grandeur et à la notoriété de ce temple de l'art. Mais juste une petite chose que je voulais encore vous poser, parce que je sais que vous y tenez, avant de nous quitter, c'est de nous parler de l'enseignement de l'histoire de l'art dans les lycées, parce que c'est votre cri de cœur.
C'est mon cri du cœur, vous avez tout à fait raison, et c'est malheureusement un cri du cœur que j'aurais voulu pousser dans des conditions meilleures. Je crois que l'avenir des musées, puisque c'est de ça dont il s'agit en vérité, n'est pas aussi heureux, qu'on ne peut pas être aussi optimiste sur l'avenir des musées qu'on ne le dit dans les gazettes. Bien sûr, le Louvre, c'est 8 300 000 visiteurs. Le Louvre, on en parle tous les jours. Le Louvre, c'est une institution dont les Français, à juste titre, sont fiers. Le Louvre, c'est beaucoup de choses. Les musées aussi semblent être de mode. Or, en fait, la situation est loin d'être aussi brillante. On s'aperçoit que les gens vont de plus en plus vers l'événement et de moins en moins vers le permanent. Maintenant, qu'il y a des sections entières, que les trois quarts du Louvre sont vides, et c'est le cas de tous les musées du monde, on s'aperçoit que les gens ont peur des musées, on s'aperçoit que les gens sont inquiets quand ils visitent les musées, ne sont pas à l'aise, et on sait bien que la seule solution pour les familiariser avec les œuvres d'art, c'est de leur enseigner ce qu'est l'histoire de l'art. Donc je plaide pour que l'histoire de l'art soit enseignée obligatoirement dans les lycées et dans les collèges, pour une raison très simple, c'est qu'on nous apprend à lire, on nous apprend à écrire, on ne nous apprend pas à voir.
Oui.
Et je crois que si on ne sait pas voir, on perd l'essentiel du plaisir que les musées peuvent donner.
Mais vous en avez parlé à Nicolas Sarkozy pendant sa campagne électorale.
Et comment
de ce projet.
Oui, d'autant plus que ça figure dans son programme électoral.
Oui.
Il y a eu des commissions. Il y a eu des commissions qui ont été mises en place et nous avons été un peu déçus, je parle de la profession des historiens d'art, tous, par le résultat de ces commissions qui n'ont que donné une toute petite place à l'histoire de l'art dans l'enseignement. Et surtout, ce qui est plus grave, il y a une place maintenant qui a été donnée, mais on n'a pas compris qu'il fallait que cet enseignement de l'histoire de l'art soit donné par des historiens d'art. Donc on s'imagine que les professeurs de gymnastique ou les professeurs de mathématiques peuvent enseigner l'histoire de l'art, ce qui est évidemment une erreur. Donc la bataille a été perdue. J'espère qu'on reviendra au projet électoral, enfin de ce qui figurait dans le programme électoral du président de la République. Et il ne faut pas perdre courage. Et je crois que si cette bataille était définitivement perdue, les musées, dans très peu de temps, très vite, seraient morts, retomberaient dans la léthargie dans laquelle ils étaient il n'y a pas encore si longtemps. Donc, je suis comme Poussin.
C'est une vraie bataille.
C'est une vraie bataille,
en tout cas.
Un vrai combat. Et je suis comme Poussin, pessimiste.
Ah. Mais ô combien vaillant combattant quand même. Le temps est malheureusement venu de fermer cet ouvrage. Il s'agit bien évidemment d'un livre de chevet, donc à consulter au fil des sujets que l'on recherche, mais à peine ouvert une page pour chercher une information, on se retrouve dans un monde dont on a peine à ressortir. Vous avez ce don de nous passionner en quelques phrases. Merci Pierre Rosenberg.
Merci.
De nous avoir offert un tel document, si riche et si vivant. Et merci de nous avoir conduits tout au long de cet étonnant parcours. Je rappelle le dictionnaire Amoureux du Louvre, paru chez Plon en novembre 2007.